Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau point de mire qui va nous permettre de découvrir le palmarès de la 25e édition du prix Turgot, proclamé par Pierre Lellouche, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, à Bercy, avec cette observation générale que je cite. Le prix Turgot est devenu, au fil des années, le grand rendez-vous annuel de la littérature économique, une contribution essentielle pour le soutien des auteurs et le rayonnement de la pensée économique française et francophone. Je reçois donc, dans ce cadre, les lauréats de cette 25e édition, Jean-Michel Severino et Olivier Rey. Messieurs, bonjour.
Nous sommes ravis d'être là avec vous. Bonjour.
Très bien, on va reprendre vos ouvrages et cette soirée. Michel Bon, président.
Bonjour.
Bonjour Michel Bon, président du Grand Jury, qui a présidé à cette 25e édition. Alors, Michel Bon, cette 25e édition était aussi celle du 25e anniversaire du prix. Elle avait donc un caractère assez exceptionnel. Quelques mots donc sur le palmarès général.
Alors, un quart de siècle, en effet, ça se fête. Hein, et donc, on a décidé de le fêter en faisant deux prix du 25e anniversaire. Quoi. Le premier est allé à Christian Saint-Étienne, qui est un des grands économistes de notre pays, pour l'ensemble de son œuvre, on dirait. Quoi. Et nous avons toujours des prix collectifs aussi. Et le prix du 25e anniversaire collectif est allé à la Revue d'économie financière, qui est aussi une de nos très grandes revues économiques. Voilà. Alors sinon, il y avait le prix Turgot, dont c'était le 25e que nous distribuions. Cette année, nous n'avions eu que 5 nominés. J'avais eu l'occasion d'ailleurs d'en parler ici même. Sur ces 5 nominés, il y a eu 2 prix, comme d'habitude. Le prix du jury, qui a été décerné à un autre de nos grands économistes, qui est André Orléans, pour un ouvrage qui s'appelle « L'Empire de la valeur au seuil », qui est un ouvrage qui est vraiment un ouvrage de doctrine économique ou de théorie économique qui s'intéresse à la notion de valeur dans la science économique, qui est un ouvrage très intéressant, je pense, assez novateur. Et puis, il y a le grand prix, le prix Turgot, le 25e, qui est allé donc à Jean-Michel Severino et Olivier Rey pour leur livre « Le grand basculement ». Alors, nos deux auteurs, je vous les présente rapidement avant de leur poser une première question. Olivier Rey est un économiste, mais un économiste qui a travaillé dans des organisations internationales, pas seulement des universités, et notamment à la Caisse française de développement. Et Jean-Michel Severino, lui, est un haut fonctionnaire, comme on dirait, mais qui a également œuvré pendant longtemps aussi dans le domaine du développement économique. Et ils ont d'ailleurs travaillé ensemble et déjà écrit un livre ensemble, donc c'est un tandem qui marche. Alors, je leur poserai peut-être une première question, tout simplement venant du titre. Le grand basculement, bon, on en voit beaucoup des basculements, la démographie, Nord-Sud, etc. C'est quoi exactement pour vous le grand basculement ?
Jean-Michel Severino.
C'est le cumul de tous ces basculements. Le basculement économique, bien entendu, puisque 2011 aura été l'année où, pour la première fois de notre histoire, en tout cas moderne, de l'économie industrielle, le PIB des pays en dehors de l'OCDE aura dépassé, ou au moins égalé, le PIB des pays de l'OCDE. C'est un basculement démographique également, avec une transformation démographique de la planète dans laquelle ce même OCDE stagne, tandis que le reste du monde galope. C'est un basculement environnemental. Nous parlons dans ce livre du moment de l'inversion des raretés, un moment où l'homme qui a été une espèce rare devient une espèce abondante et où la nature qui était perçue quand même comme abondante devient rare. Donc ce sont toutes ces transformations qui bouleverse à la fois l'économie réelle, mais aussi la façon de la penser.
Alors, vous nous parlez du monde entier. Au fond, c'est un livre global, si l'on ose dire. En ces temps de campagne électorale, le jeu à la mode, c'est quand même c'est la faute à qui, quoi. C'est la faute aux immigrés, c'est la faute aux Chinois, c'est la faute aux autres, en tous les cas, pas à nous, ça c'est sûr. Hein. C'est la faute à quelqu'un, Olivier Rey ?
C'est la tentation dans toute période de crainte, la tentation du repli, de la protection derrière des frontières locales, nationales ou autres, et de l'accusation de l'autre, effectivement. Et alors, j'étais hier à une conférence sur la politique étrangère turque et j'étais assez frappé de voir que les slogans à la mode en Turquie, qu'on voit affichés dans les rues, etc., c'est « Globally yours » ou bien « Think global ». Et donc, on est dans un pays en trajectoire d'émergence comme la Turquie, que la France ne perçoit pas nécessairement comme un émergent. d'argent, et pourtant les taux de croissance sont là. On est à fond dans la mondialisation, aussi enthousiaste que les Européens auraient pu l'être il y a 10 ans. Et aujourd'hui, le discours en France, en Europe, est plus de nature protectionniste, parfois populiste, ou démondialisateur. Et je trouve ce basculement, encore un, assez révélateur de l'attitude face à cet objet de la mondialisation, des gens dans les pays du Nord, industrialisés, des acteurs nouveaux, des pays en voie de développement.
Et peut-être pourrait-on ajouter qu'en fait, ce qui rend la situation actuelle très complexe, c'est que nous avons tous, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développement, voulu la situation actuelle pendant de très nombreuses années. Le consommateur européen s'est réjoui de payer chaque année moins cher ses biens de consommation, de pouvoir bénéficier, venant non seulement de Chine, mais aussi de nombreux autres pays en développement, y compris au sud de la Méditerranée. Il s'est réjoui d'avoir des nounous et des éboueurs venir faire des tâches indispensables à la vie de la collectivité. Il s'est réjoui de pouvoir passer pas cher des appels téléphoniques traités par des centres d'appels quelque part entre Maroc et Turquie ou Inde. Et parallèlement, il s'est en même temps, il a déploré la perte des emplois qualifiés, le chômage qui s'étendait, etc. Et c'est de la même manière, dans les pays en développement, on a espéré avec beaucoup d'enthousiasme ces transformations industrielles. Et par exemple, pour prendre un point d'actualité récent, au moment où la polémique faisait rage en France sur les investissements de Renault à Tanger, les Marocains se réjouissaient d'investissements qui allaient sortir de la misère des milliers de personnes dans la zone méditerranéenne du Maroc. Bon. Donc nous avons voulu ensemble, au travers des stratégies industrielles, des stratégies commerciales, la situation que nous voyons aujourd'hui.
Alors sûrement c'est l'un des points d'ailleurs assez forts de votre livre. Vous démontez tout ça sans passion, avec beaucoup d'objectivité, et on arrive à la conclusion qu'effectivement tout ça, c'était normal que ça se passe, et finalement d'ailleurs c'est pas si mal que ça se passe comme ça. Au total c'est un livre assez optimiste, d'autant que vous ajoutez aussi une touche assez rare dans les livres d'économie, de terrain, parce que vous n'êtes pas des économistes en chambre, tous les deux vous êtes des économistes de terrain, de votre métier vous avez rencontré beaucoup de situations concrètes avec des vrais gens derrière, et ça, ça parle assez fortement dans votre livre. Mais alors, le problème c'est que ça serait beaucoup plus simple d'avoir une seule cause à tous les problèmes, parce qu'on réglerait les choses plus facilement. Donc la solution que l'on peut imaginer après avoir lu tout ça, c'est que ça ne va pas être si simple quand même.
Non,
Jean-Michel Severino, oui.
Clairement, ce qu'on entend aujourd'hui beaucoup dans le consensus politique et économique, au-delà des différences partisanes, est juste. Il faut, par exemple, que des pays comme la France investissent davantage dans la qualification de sa main-d'œuvre, dans son capacité à innover, qu'on dynamise le progrès technologique, qu'on porte plus d'attention à nos PME et nos PMI. Tout ça est exact. Mais ça n'arrivera que sous la pression d'un certain nombre de conditions. Et aussi que parce que si c'est accompagné de grandes transformations macroéconomiques qui ne sont pas contradictoires mais complémentaires à ces efforts internes que nous devons faire. Et effectivement, dans le grand basculement, nous mettons en avant un certain nombre d'axes de grandes directions qui pourraient aider ces transformations. Nous parlons de la réinversion des raretés ou comment essayer de rendre à nouveau l'homme plus rare et la nature plus abondante. Nous soulignons par exemple l'importance de la fiscalité dans ce domaine. Nous mettons en évidence, en avant, le fait que une meilleure exploitation des marchés domestiques devrait aider au rétablissement de ces équilibres, ce qui ne signifie pas le protectionnisme. Il y a des façons d'avoir des politiques plus centrées sur les marchés intérieurs sans qu'elles soient hostiles aux échanges. Nous soulignons aussi qu'on peut peut-être imaginer des rééquilibrages de balance des paiements à travers la mise en valeur des parties du monde qui ne sont pas encore dans ce face-à-face émergent-émergé, parties du monde qui représentent aujourd'hui le plus gros de la population de la planète.
Alors, quel regard portez-vous dans ce raisonnement général sur la Chine, qui aujourd'hui fait l'objet d'un certain nombre de procès, au moins d'intentions? Quelle est votre approche?
Alors, si je peux, je laisserai Jean-Michel répondre sur la Chine pour ajouter un mot en réponse à la question précédente sur la tonalité optimiste de cet ouvrage.
Oui.
C'est peut-être un ouvrage, et c'est sûrement un ouvrage qui essaye de dégager des pistes pour l'avenir. On ne voulait pas s'arrêter à un constat d'échec, de problème de la mondialisation. C'est aussi un ouvrage inquiet sur beaucoup des tendances qui n'auraient pas nécessairement dû arriver. Je pense qu'il y a eu des errements dans les politiques, y compris macroéconomiques et sociales de nos pays dans la mondialisation. On a peut-être vu une mondialisation heureuse sans se soucier des déséquilibres qu'elle provoquait dans nos sociétés et à l'international. Et si on recommande l'établissement de filets de sécurité sociaux solides au niveau national, régional et des redistributions au niveau international, c'est bien que finalement l'équilibre entre gagnants et perdants de cette mondialisation telle qu'elle a été tracée ces 30 dernières années, les dés sont pipés selon qu'on a du capital humain, notamment des qualifications qui se revendent à l'international ou au contraire qu'on ne dispose pas de ce savoir-faire, on peut être gagnant ou perdant de cette mondialisation. Et l'une des politiques qui aurait dû être mise en place de façon beaucoup plus vigoureuse dans nos sociétés, c'est une redistribution entre gagnants et perdants de ce nouveau marché international. Et on explique qu'aucun marché n'a été construit dans l'histoire de l'homme sans que se mettent en place en parallèle des mécanismes de redistribution entre gagnants et perdants de cette ouverture économique. Là où il n'y a pas eu ces mécanismes de redistribution, alors il y a une coalition d'acteurs qui s'est mise en place pour défaire cette ouverture commerciale. C'est beaucoup comme ça qu'on analyse toute la tendance à la démondialisation, les critiques et les nouveaux populismes. C'est une exigence de protection dans une mondialisation qui enrichit la moyenne, mais qui fragilise les plus exposés.
Dans cette suite, je reviens à la question initiale. Là, je me tourne vers Jean-Michel Severino. Quel regard vous posez sur le problème ou la situation chinoise ?
D'abord, la Chine est une extraordinairement bonne nouvelle. Que l'on sorte autant de gens de la pauvreté absolue en aussi peu de temps est une performance extraordinaire, et sur le plan de l'éthique comme sur le plan, je dirais, de l'avenir de notre espèce, nous devons beaucoup à la Chine. La prospérité croissante de la Chine, ça veut dire plus de dépenses de recherche dans le monde, ça veut dire plus de solutions trouvées aux problèmes de notre planète. Et j'ajouterai, de façon peut-être un petit peu malicieuse, que nous devons aux régimes autoritaires chinois la modération démographique de ce pays. Imaginez une Chine avec les taux de croissance démographique de l'Inde. Elle avoisinerait aujourd'hui 1,8 milliard, 1,9 milliard d'habitants. Donc nous devons beaucoup à la politique de croissance et de maîtrise sociale de la Chine et de maîtrise démographique de la Chine des 30 dernières années. Alors maintenant, cette émergence de la Chine, bien entendu, pose de nombreux problèmes ou défis, des défis de gouvernance. Il faut que ce pays s'insère de manière harmonieuse dans la gouvernance mondiale. Et ça, bien entendu, ça crée de nombreuses tensions. Il faut que ce pays prenne la mesure des conséquences politiques de sa puissance économique, ce qu'il fait avec une certaine progressivité, mais uniquement avec une certaine progressivité. Donc, il doit aussi tirer des conséquences dans ses positions sur, par exemple, les grandes négociations internationales ou la diplomatie internationale de qui il est aujourd'hui. J'ajoute sur ce terrain que la nature autoritaire du régime chinois n'en fait pas un problème plus important que celui des autres pays. Aujourd'hui, nous avons dans les négociations internationales, par exemple sur le climat, beaucoup plus de difficultés avec les Indiens et les Brésiliens qu'avec les Chinois, qui ne sont pas le point dur. Et d'une manière générale, la Chine a assez aisément accepté tous les fardeaux, y compris ceux d'ailleurs de la contribution au financement du développement. C'est aujourd'hui un financeur de l'AID, de la Banque mondiale, des guichets concessionnaires de la Banque mondiale. Mais ce pays n'a pas achevé sa mutation. À vrai dire, le grand sujet de la Chine, c'est bien entendu la nature de son régime politique, qui lui a garanti d'une certaine manière son succès économique, mais qui, tant sur le plan des valeurs que sur le plan des conséquences politiques, aujourd'hui fait problème. Et là, nous sommes face à la grande inconnue politique du XXIe siècle. Comment se transformera le régime chinois ?
Quel avenir pour le capitalisme totalitaire ? Alors, je ne sais pas s'il y a une dernière question du côté de Michel Bon.
Écoutez, non, moi, ce que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, c'est que c'est un bon livre pour le moment que nous traversons, parce que c'est un livre qui parle à notre intelligence, avec pas mal de sérénité dans le discours, mais qui ne nous prend pas pour des crétins, quoi. Et c'est un livre aussi qui ne cherche pas à accuser, mais qui cherche à construire, et qui cherche à le faire en essayant de trouver un consensus pour cette construction. Donc, ce n'est pas exactement ce à quoi ressemble ce qu'on entend dans cette période un peu particulière, il est vrai, de notre vie, qui est une élection, quoi.
Mais c'est tout le talent de nos deux auteurs, de ce duo d'auteurs, qui avait fait paraître en son temps, je crois qu'on l'a rappelé en début d'entretien, Le temps de l'Afrique. Déjà, vous l'avez écrit, je crois, à deux, c'était bien ça. Je rappelle donc que vous êtes les deux lauréats, les co-lauréats de la 25e édition du prix Turgot avec votre ouvrage Le Grand Basculement et un sous-titre La question sociale à l'échelle mondiale qui est paru chez Odile Jacob. Et je rappelle enfin que vous avez, vous Olivier Rey, hérité du trophée du jeune talent. Donc vous avez trois trophées à deux, donc c'est quand même déjà pas mal.
Il en a mérité plus qu'il n'en a hérité.
En tout cas, oui, mais le résultat est un petit peu voisin. Bon, je crois que nous avons à peu près fait le tour. Merci, c'était donc les convictions des lauréats de la 25e édition du prix Turgot. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Thank you. Thank you.